Esteva, la revue telle qu'elle de Philippe Solers, mais encore Barthes, Lacan, la naissance du post-structuralisme non loin de Foucault, Derrida, Deleuze. Impossible de nier l'extraordinaire impulsion théorique des années 1960 et 1970 en France, notamment à propos du langage et de la littérature. Et c'était aussi un combat politique, contre une vieille façon de lire les œuvres, en affirmant que les révolutions se font d'abord dans l'écriture et dans la lecture. Mais qu'est-ce que c'est une époque théorique, assez unifiée malgré ses débats internes pour qu'on puisse la repérer, la désigner? Pourquoi ça naît et pourquoi ça se termine? Mais encore, pourquoi et comment ça se transforme, voire ça s'instrumentalise? Car n'est-ce pas ce que donnent à voir beaucoup d'universités américaines, assoiffées de French theory, forçant sur le jargon et parfois au service, aujourd'hui, de nouveaux usages politiques? Nous en parlons ce matin avec Julia Kristeva elle-même. Bonjour.
Bonjour, Géraldine Hoffmann.
Et nous avons deux autres invités pour évoquer tout cela.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Bienvenue François Cusset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des idées, notamment l'auteur aux éditions La Découverte d'un livre intitulé French Theory, ouvrage très pédagogique sur le devenir américain d'un certain nombre d'auteurs français des années 1960 et 70. Enfin, à distance depuis Genève, voici Vincent Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un universitaire suisse, fin analyste des médias, guettant les évolutions de ce que Guy Debord avait appelé la société du spectacle, Debord auquel vous avez consacré plusieurs travaux. Vous venez cependant des études littéraires, très bon connaisseur de cette époque théorique dont nous parlons, dont Kristeva faisait partie. Vous admirez cette impulsion qui a marqué votre thèse sur Mallarmé, et vous détestez les accusations souvent injustes dont cette époque fait l'objet. D'où un livre au titre parfaitement ironique, que vous avez publié au Seuil en 2011, La faute à Mallarmé. Pour commencer cette discussion, rappelons-nous, je le propose, le bonheur de Pierrot le Fou en 1965, le bonheur à lire Céline à haute voix, interminablement.
T'as mes bouquins ?
Pas tout, mais je te trouvais ça d'occasion. L'écrivain a le même nom que toi.
Ah, Ferdinand.
Tu connaissais ?
Je suis de feu, je suis lumière, je suis miracle. Je n'entends plus rien. Je m'élève. Je passe dans les airs. Ah, c'est trop. J'ai vu le bonheur devant moi. Émotion surnaturelle. Et puis, je ne sais plus rien. J'avance un petit peu les mains. Les choses vers la droite. Je touche, j'effleure les cheveux de ma fée, de la merveille adorée, Virginia.
Guignol et bon. Bon, tu viens?
Parfait bonheur. Ah, je me trouvais en émerveillement si intense que je n'osais plus remuer. Heureux jusqu'aux larmes, transi de bonheur, je palpite. Que le cœur me gonfle, je brûle, je suis flamme aussi. Je suis dans l'espace, je m'accroche à Virginia.
Tiens, te vois ton bouquin. Vous m'aviez promis la Chine, le Tibet, Monsieur Sosten, les îles de la Sonde, les plantes merveilleuses et magiques. Où que c'est tout ça, hein? Cham, 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 ratatam, je le prenais à ces mensonges.
En lesquels jours?
Vendredi.
Tu me quitteras jamais?
Mais non, bien sûr.
Bien sûr.
Oui. Bien sûr.
Et vous aurez reconnu, sans doute, Jean-Paul Belmondo et Anna Karina dans cet inoubliable film de 1965 où Jean-Luc Godard n'a pas peur de montrer son Pierrot Ferdinand, fou de littérature. Cela nous rappelle peut-être que cette époque des années 1960 puis 1970, si inventive dans ses outils d'analyse des textes littéraires, était d'abord une époque d'amour de la littérature. Peut-être, Vincent Kaufmann, était-ce la dernière fois ?
Oui, peut-être. Je suis pas loin de le croire. Je crois que c'est important de rappeler que, fondamentalement, le théorique procède d'une culture de l'écrit, du livre et même du livre fondateur. Les théoriciens écrivent, les conceptualités qu'ils mettent en place n'existent finalement que dans l'espace du livre. Elles n'existent qu'à s'articuler dans l'écrit. En France, d'ailleurs, le moment théorique des années 60 et 70 a été porté par des éditeurs beaucoup plus que par des institutions. Et c'est déjà une première raison pour penser qu'avec le basculement dans l'audiovisuel puis dans le numérique, la théorie est finalement en mode survie, si elle existe encore.
Et la littérature ?
Alors, dans cette perspective, je crois que le théorique, dans sa pluralité, a été une sorte de chant du cygne de la culture de l'écrit, d'une culture vraiment littéraire. C'est le moment où la culture littéraire a peut-être brillé une dernière fois de tous ses feux. Elle a été un moment de célébration, même d'auto-célébration, de passion, oui, de retournement réflexif sur le langage, sur ses limites, sur l'écrit, sur la littérature, alors que l'écrit et peut-être plus généralement le discours, la littérature était précisément en train de perdre leur centralité, leur autorité, leur prestige au profit d'une culture beaucoup plus marquée par l'audiovisuel et plus tard le numérique.
Pour qu'on comprenne bien ce que vous dites.
Je crois qu'il faut insister sur cette dimension de passion pour la littérature, parce qu'on oublie souvent que les théoriciens ont été des fous de littérature, des interprètes, des critiques très très brillants. Il y a eu d'interprétations d'œuvres littéraires qui ont marqué toute une génération. On peut penser au SZ de Barthes, oui, son analyse de la nouvelle Sarrazine de Balzac, mais aussi, bien sûr, aux travaux de Julia Kristeva sur Lautréamont ou sur Mallarmé, à de très beaux livres sur Proust, oui, par exemple celui de Gilles Deleuze ou celui de Jean-Pierre Richard. Il y a eu un foisonnement de textes qui ont vraiment marqué toute une génération de chercheurs, je crois.
Alors, c'est important que vous disiez cela, parce que votre ouvrage analyse en même temps un reproche qui est parfois fait à cette époque, qui est d'avoir compliqué le rapport à la littérature et de ne pas avoir favorisé l'accès aux textes littéraires. J'ai envie de dire, François Cusset, qui réfléchissait aussi à ce problème, j'ai envie d'utiliser le propos d'une autre héroïne de Godard, dont à bout de souffle, Jean Seaborg, c'est dégueulasse, hein, c'est vraiment dégueulasse de dire que cette impulsion théorique magnifique dans la passion de la littérature aurait été la fossoyeuse de la littérature et de la lecture.
Jean Seaborg disait, c'est quoi dégueulasse? C'est quoi dégueulasse? Non, c'est sûr qu'on fait depuis un demi-siècle un procès fou, très idéologique à la théorie, à laquelle on reproche à peu près tout, le relativisme, la décadence, je sais pas moi, la montée de l'extrême droite, pourquoi pas, et surtout en littérature, la fin du plaisir. Donc il y aurait d'un côté le plaisir qui serait le texte, et de l'autre côté l'élucubration inutilement compliquée qui nous éloignerait du plaisir. Ce que ce moment théorique des années 60-70 nous rappelle, c'est que la pensée, la théorie n'est pas séparée du texte, et surtout est un plaisir. Il y a une joie, il y a un désir, il y a même d'ailleurs une rage, une folie, enfin...
Une jouissance, qui est un mot très important, nous en avons parlé avec vous, Julia Kristeva.
Une vraie jouissance. Alors, effectivement, c'est une drôle d'époque, hein. On entendait Belmondo dire, enfin, lisant Céline, je ne sais plus, je ne sais rien. Effectivement, on a fait aussi le procès à la théorie d'en savoir trop, d'en savoir plus que le texte littéraire, de parler à sa place, de nous en éloigner, etc. C'est pas vrai. Le moment théorique, c'est aussi un moment de remise en question conceptuelle, philosophique, politique, radicale, bien au-delà d'ailleurs de la littérature. Et c'est un drôle de moment où les héros de la littérature ne sont plus la marquise qui sort à 5 heures, la petite première personne qui raconte sa vie, ou la jolie figure de style poétique. Mais les héros de la littérature sont le texte, la langue, le pouvoir, la révolution, pas comme thème, comme enjeu même de l'écriture et de la lecture. Alors, dit comme ça, on croirait que c'est la préhistoire, enfin, que c'est, en tout cas c'est une époque très, très lointaine. Moi, il me semble qu'elle nous parle beaucoup, cette époque, et je pense même que les grands textes théoriques des années 70 anticipent ce qui nous arrive aujourd'hui beaucoup plus précisément que tout ce qu'on a écrit depuis, ça j'en suis sûr.
Alors, Julia Kristeva, il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui vous apprécient encore, malgré tous les procès qu'on a fait à cette époque, cette manière de lire la littérature. Je pense à Martin Rueff, qui à Cerisy, lieu très important pour vous et pour beaucoup de gens qui travaillaient à vos côtés, en 2021, a lu une très belle intervention, Le langage poétique ou l'avenir d'une révolution, et Martin Rueff vous rend un hommage en disant que votre livre de 1974, La révolution du langage poétique, était vraiment dans une sensibilité au négatif, transformateur du réel. Ce n'était pas de la théorie totalisante, c'était au service du texte, et c'est ça qui était révolutionnaire, dit-il, le fait de ne pas acquiescer au monde, disait-il. Julia Kristeva, pensez-vous qu'il y a un faux procès, comme le disent nos deux invités d'aujourd'hui, qui a été fait à cette époque des années 1960-70 à laquelle vous avez participé activement?
Ben, écoutez, j'entends ce procès, je l'ai entendu et j'essaye de ne pas me laisser entraîner par le pathos destructeur de ces auteurs. Ça me choque et je ne m'y reconnais pas.
Oui.
Et aujourd'hui, nos deux amis ici présents sont très modérés et très ouvrants vers l'actualité possible et peut-être même l'avenir de cette approche de la littérature qui peut la sauver de l'enlisement dans Politically Correct de l'hyperconnexion. Mais moi, je reste toujours étonnée par cette caricature passionnelle qu'on fait de la théorie et dans laquelle je me trouve compactée avec des auteurs qui ont leur singularité, et je trouve que c'est le plus grand reproche qu'on peut faire à ces critiques, c'est de mettre Lacan, Kristeva, Barthes, Deleuze, Baudrillard dans un même pot pourri sans voir la particularité, la passion, vous le disiez tout à l'heure, à la fois de l'écriture et de la sensualité, du plaisir de penser qui se trouve dans cette démarche. Alors pour me distraire un peu de cette caricature passionnelle qu'on fait de la théorie, je vais vous demander de me permettre de donner un exemple de la terminaison de cette littérature. Tout à l'heure, Vincent Kaufmann a dit que on se demande qu'est-ce que la littérature, est-ce qu'elle se termine aujourd'hui. Je pense qu'elle ne se termine pas, ni la littérature, ni la théorie. Et pour vous donner un exemple, je vais vous demander, Géraldine, de me permettre de lire quelques lignes d'une revue qui s'appelle 19e siècle et qui suit mon travail depuis la révolution du langage poétique jusqu'à Dostoïevski aujourd'hui, et qui m'a posé des questions autour de la théorie, où j'essayais de l'expliquer. Et pour ne pas entrer dans un surenchère de critiques et de généralités, parce que j'ai toujours un Sigmund Freud dans ma poche et qui me dit, quand vous êtes choqué par ce genre de choses, ne s'enrichissez pas de ça et ne répondez pas, mais dites ce que vous pensez. Donc permettez-moi de lire quelques lignes. Je dis ceci à la question de la revue concernant qu'est-ce que c'est la littérature pour moi et pourquoi je l'applique à Dostoïevski. Et ça tombe pour nous parce que nous avons parlé récemment de Dostoïevski et nous n'avons pas beaucoup dit là-dessus. On va voir peut-être comment la littérature vue par la théorie permet de situer la littérature dans le vivant de l'actualité. La polyphonie des grands textes littéraires, disent nos amis de 19e siècle, en fait tout autant des témoins spécifiques et irréductibles de leur époque que de révélateurs des composantes universelles de l'humanité. Pour révéler cette ubiquité, l'interprétation qui les aborde ne devrait pas se limiter à une herméneutique basée sur l'histoire de la littérature et de la phénoménologie. La révolution copernicienne de l'inconscient freudien, donc je plaide là pour ma paroisse, permet et m'a permis d'y inscrire l'architectonique de l'expérience intérieure, forcément psychosomatique et singulière dans son énonciation. La théorie littéraire ainsi comprise, l'élan théorique qu'on a pu m'attribuer, se construit dans un fervent transfert dans les œuvres et les auteurs. Donc il y a une espèce de coprésence, cohabitation entre le théoricien et la littérature telle que je l'entends, théorie et subjectivité compris. Au fil des années, ceci m'a conduit à Dostoïevski et je vais vous dire comment cette théorie nous révèle un auteur dont on parle aujourd'hui, pas assez, mais qui nous permet de comprendre par la théorie et pas seulement par le journalisme, sa place dans le conflit politique qui secoue le monde actuellement. Ponctué par ma clinique psychanalytique, j'ai acquis une écriture transgenre, ni essai ni roman, les deux à la fois, une sorte d'oratorio dramatique. Pour ne donner qu'un exemple, je vous parle de la lecture de Dostoïevski, je dirais que j'accompagne l'écrivain sur l'échafaud où il fut condamné à mort pour ses idées françaises révolutionnaires. Je le suis au bagne de Sibérie où il entame ses métamorphoses qui vont le conduire au grand roman. L'enfant de l'incroyance et du doute, comme il se définissait, il le restera jusqu'à la fin de sa vie, mais il va découvrir et reconstruire un Christ national qui ne quittera pas le nouveau narrateur clandestin et démoniaque en train de surgir dans ses carnets de la maison morte et des carnets de sous-sol. Le disciple de Forçat, comme il se définissait lui-même, pressentait déjà la nature carcérale de l'univers totalitaire qui se révèle dans la Shoah et le Golag et qui menace aujourd'hui par la puissance de la technique et dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et je finis, l'œuvre de Dostoïevski est grosse de ces tendances qui cohabitent aujourd'hui le clivage constitutif de la personne, donc j'arrive avec mes théorisations de la vie psychique de l'écrivain, mais tout ça pour dire que ce dédoublement même, cette psychisation de ma lecture, permet de révéler un Dostoïevski dans les profondeurs du séisme qui ébranle aujourd'hui la globalisation et face auquel la gestion politico-économique, l'hyperconnexion manque cruellement de moyens. C'est par la théorie que nous pouvons joindre la culture littéraire qui est loin d'être morte, qu'elle soit héritage ou actualité, et l'événement actuel. La théorie est la pensée et la perception de cette existence quotidienne.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous sommes dans le quatrième épisode d'une série cette semaine consacrée à l'œuvre de Julia Kristeva qui bouscule tant la littérature. Nous parlons de cette époque théorique à laquelle ses premiers travaux ont appartenu, à ce qu'il en reste, à la passion de la littérature qu'il y avait aussi dans cette époque, alors même que parfois on lui fait un mauvais procès, celui d'avoir tué le plaisir de la lecture. Julia Kristeva vient de vous lire un texte qui, je crois, est exactement, illustre parfaitement cette passion. Je suis en compagnie de François Cusset et Vincent Kaufmann qui ont beaucoup réfléchi à ce que sont devenus ces legs des années 1960-70. Julia Kristeva vient finalement d'illustrer ce que Roland Barthes disait d'elle dans un très beau texte de 1970, L'étrangère, que nous avons déjà lu en partie dans le premier épisode, où il disait que le supplément chez Kristeva est toujours théorique, mais tout le sujet est de savoir ce qu'est la théorie. Qu'est-ce que la théorie, ajoutait-il ? Ce n'est ni une abstraction, ni une généralisation, ni une spéculation, c'est une réflexivité, c'est en quelque sorte le regard retourné d'un langage sur lui-même. Vincent Kaufmann, c'est tout ce que vous aimez, mais vous êtes, je crois, inquiet, nostalgique, et contrairement peut-être à Julia Kristeva, vous pensez que quelque chose de tout cela est mort ou est en train de mourir dans notre rapport à l'écrit. Je me trompe ?
Non, je crois que c'est vrai, c'est juste la littérature peut encore représenter aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un déferlement d'images, sans parler du numérique, qui fait que c'est en tout cas devenu beaucoup plus difficile que peut-être dans les années 60-70. Mais c'est vrai aussi que quand je vois la continuité de la démarche de Kristeva, qui a été une théoricienne et qui continue finalement avec peut-être d'autres instruments conceptuels, beaucoup plus aujourd'hui la psychanalyse bien sûr, à être une formidable lectrice. C'est encore possible de l'être, ça c'est tout à fait certain. Je crois que la continuité elle est dans le fait que les lectures proposées par Julia Kristeva sont toujours les lectures finalement d'un sujet qui se confronte, qui se frotte à des textes. Il y a toujours cette espèce d'expérience de la lecture qui est là et qui est, comme elle l'a dit elle-même il y a deux jours ou trois jours, une expérience qui transforme le sujet qui lit ou celui qui lit, ceux qui lisent, etc. Donc oui, moi je suis beaucoup moins optimiste sur l'avenir de ce genre de possibilités.
Alors maintenant, j'entends ce pessimisme, il va d'ailleurs être un peu l'objet de notre discussion tout le temps là ce matin, mais je voudrais qu'on parle de l'Amérique un peu. La French Theory est une drôle de chose, François Cusset, c'est-à-dire qu'elle mélange des gens, et là-dessus, Julia Kristeva, vous dites des choses très justes, des gens qui étaient incroyablement singuliers, qui avaient même des différends et des différences entre eux, je pense par exemple à Derrida et Foucault, qui avaient des désaccords très grands, notamment sur la question de la folie, la lecture de Descartes, enfin un tas de choses. Et là, tout le monde est ramassé, alors certes pour les honorer, donc c'est difficile de critiquer parfois ce qui vous a tant rendu hommage, mais il y a quelque chose d'un peu, c'est la grande famille française. Ça se passe, contrairement à ce que dit Vincent Kaufmann pour ce qui était des années 60-70, non pas dans l'édition, chez les auteurs, mais surtout dans des départements de littérature d'université qui sont aux États-Unis assez coupés de la société, contrairement aux figures d'intellectuels des années 60 et 70 en France. Parlez-nous un peu de cela. Pensez-vous qu'il y a eu un début de trahison, ne serait-ce que dans l'adulation de cette période par les universitaires américains ?
Alors,
François Cusset.
Moi, je ferais peut-être un lien avec, entre cette expérience américaine, ce moment américain, et ce que vient de dire Vincent Kaufmann, parce que je partage pas son pessimisme. Je pense qu'il y a une dimension politique de la théorie dont on hérite, dont les nouvelles générations savent aussi faire usage, et que finalement, la part politique de la théorie, c'est les usages qu'on en a.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est que cette leçon américaine de la French Theory ? C'est qu'avec la théorie, qu'on la comprenne ou qu'on la comprenne pas, on invente des pratiques, des usages. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se permet d'aligner des textes et des théories qui ne sont pas toujours compatibles les unes avec les autres. Et pour être fidèle à cette histoire américaine, il faut d'abord rappeler qu'avant d'être un objet universitaire à la mode, la French Theory, brièvement, est passée dans des milieux plus contre-culturels, plus créatifs, plus avant-gardistes, pendant les années 70, des revues très subversives, y compris la scène musicale, la scène artistique. Alors, tout ça était assez bref, je dis pas que, les musiciens punk lisaient Deleuze, pendant leurs concerts, mais il y a eu quelque chose comme un croisement de ces mondes qui d'abord attestent de la puissance politique de ces textes, toujours aujourd'hui, et qui prouve que heureusement, tout ça ne finit pas entre les barrières d'un campus, parce qu'on sait bien qu'aux États-Unis, les campus sont quand même des endroits isolés, enclavés, bien loin de l'Amérique profonde, celle qui s'apprête à réélire Donald Trump. D'accord. Alors, après, je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis fait l'héritage mondial de la théorie aujourd'hui, même en France, puisqu'on sait bien que la France a tourné le dos à tout ça. La France, pendant ce temps, s'est plutôt intéressée à autre chose, à des choses plus conformes, plus morales, enfin, des nouveaux philosophes, jusqu'à voilà, plein de...
Et a même dénoncé ce qu'elle a appelé, peut-être d'ailleurs dans une globalisation problématique aussi, la pensée 68, je pense au livre de Luc Ferry et d'Alain Renaud.
Bien sûr, le fascisme du désir. Enfin, vous voyez, c'est pas un hasard s'il y a 2-3 ans, le ministre de l'Éducation de l'époque, Jean-Michel Blanquer, a organisé quand même un colloque à la Sorbonne pour dire comment reconstruire après la déconstruction.
En tout cas, il a fait l'allocation.
Voilà. Comment nous vacciner, disait-il, en plein Covid, du virus French Theory. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment une sorte de danger pour la civilisation que serait ce qui, après tout, ne sont que des textes. Hein. C'est comme disaient les maoïstes à l'époque. Pourquoi est-ce que les tigres en papier, s'ils sont en papier, font peur à ce point? D'accord? Ils ne sont qu'en papier, après tout. Ben, justement, la réponse, elle vient des États-Unis, moi, je pense. Parce que finalement, on pourra mettre les pieds dans le plat. Quel est l'héritage politique de ce moment théorique? Il est du côté du mineur, du minoritaire. Et alors, c'est peut-être un contresens par rapport à ce que disaient Foucault, Deleuze, mais aussi Julia Kristeva, mais les théories féministes, homosexuelles, LGBT, postcoloniales, décoloniales, minoritaires de tous ordres, aujourd'hui, qui sont à la fois des pratiques politiques et des relectures des textes, sont les héritières de ces courants philosophiques parce qu'elles en ont fait un usage peut-être pas fidèle, mais un usage inventif. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à voir dans l'actualité ce qui se passe sur les campus américains, on voit qu'il y a une génération abreuvée de ces théories et de ces textes-là, qui est pleine d'initiatives politiques, qui refuse le monde tel qu'il est, et qui me semble, même avec 50 ans de distance, héritière de ce moment théorique oublié des années 70.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Julia Kristeva, de l'usage qu'on fait aujourd'hui de ce moment auquel vous avez participé? La rencontre, par exemple, entre plusieurs théories littéraires, outils d'analyse, on va dire comme ça, notamment les vôtres, et le paradigme du postcolonial ou du décolonial, n'avait rien d'évident. Vous évoquez d'autres choses, là, le LGBT, ça, mais il y a aussi cette histoire du postcolonial, décolonial. Nous, on a fait des séries là-dessus, ce sont des paradigmes qui méritent analyse. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ils existent, il faut les connaître. Mais vous, ces rencontres, elles vous effraient? Julia Kristeva, vous vous insurgez contre la récupération pour d'autres usages politiques de vos travaux et de votre nom, ou bien vous pensez que c'est comme ça, les œuvres vivent au-delà des intentions premières des auteurs et ça n'a pas de sens de soupirer ou de critiquer?
Mais écoutez, pour résumer ce que vous dites, Géraldine Mühlmann, et ce que disent nos amis invités qui connaissent les théories et les French theories, je dirais, moi je suis une pessimiste optimiste, ou une optimiste pessimiste. Je pense pas que la French Theory a eu un effet de destruction des valeurs et de la chose littéraire. Et que tel ministre l'ait dit, tant pis pour ce ministre et la chaîne qui aujourd'hui propage ses avis. L'idée de la déconstruction, c'était tout simplement la capacité qu'on a évoquée hier et qu'Anna Arendt souligne, la capacité de penser par interrogation, par position de question. Mm-hmm. On pose des questions et qui sont suivies de pardon et de promesses. Et cette capacité est quelque chose d'inhérent à l'essence, permettez-moi cette expression, de l'Occident et de notre tradition gréco-judéo-chrétienne. Si on arrête cette investigation de questionnement, de questions de promesses et de pardon, nous allons dans le sens de toutes ces forces postcoloniales qui s'appellent aujourd'hui le Global South.
Et qu'est-ce que vous en pensez de ces forces?
Je pense qu'il faut garder l'Occident, il faut garder la souveraineté de l'Occident en sauvant le livre. Le livre aujourd'hui, évidemment, il va pas céder à notre attaque et à notre déconstruction parce qu'il est pris par l'industrie du livre. Et il existe d'une certaine façon tel que la veut l'industrie du livre et le capitalisme déchaîné. Mais il y a aussi marge dans cette emprise de l'argent sur le livre qui sont très évidents dans le destin de notre pensée aux États-Unis. Et ce destin qu'on a évoqué tout à l'heure est double. Il y a des bénéfices de cette diffusion de la théorie française aux États-Unis. D'un bénéfice personnel, mes ouvrages ont été traduits en anglais et on me lit en Iran et en Chine en anglais.
Et vous êtes une star sur les campus américains.
Et je suis
américains.
Une star, c'est oui. Un malentendu sans doute.
Ah
mais
bon?
Mais bon, je sais pas si je suis une star, je veux dire, c'est un honneur qu'on me fait, peut-être que je le mérite pas, peut-être
que
j'en sais rien.
Moi j'ai un peu eu un petit passage par le département de français de Columbia dans les années 1990. Julia Kristeva, votre aura était indéniable. Je rappelle aussi que il développera juste après, Vincent Kaufmann a enseigné à Berkeley, l'Amérique vous a adoré et
mais ça continue.
Et pourquoi est-ce un malentendu alors?
Non, j'ai mal entendu parce que je fais la modeste. Je dis peut-être que je mérite pas. Ils avaient besoin de quelqu'un qui s'exprime en France, mais pas de la manière Frenchy. Et ils se mettent à la place d'une étrangère comme je suis et se disent nous aussi on peut faire comme elle. Donc elle nous donne quelque chose de français qui peut être international. Il y a eu là tout un contexte des 30 glorieuses qui a permis aussi cette exportation de la lecture pour tous et du plaisir du texte avec des ça c'est le côté positif qui continue aujourd'hui. Je vous ai envoyé un livre qui vient de paraître à Indian Press, oui. Et Open Space de 1000 pages
sur vous
sur moi, ah oui. Avec des Aide Casey qui est grand spécialiste de la philosophie de la religion. Il y a Anish Kapoor, le peintre, Annie Duncan-Bitt.
C'est un malentendu, Julia Kristeva?
Non, ça c'est parmi les choses positives. donc c'est il y a toute une comment dire des générations de gens, femmes et hommes plus ou moins jeunes et de jeunes aussi qui prolonge cet effort de penser, de pardonner, de promettre par l'interprétation et par l'implication de la vie intérieure. Mais il y a aussi une espèce de crispation dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir que est-ce que c'est l'Amérique qui n'est pas unie? Il y a l'Amérique de Trump et l'Amérique de Biden.
Ça, c'est sûr.
Il y a les gens qui viennent du Far West et d'autres qui viennent de New York et de Boston et qui ne n'entendent pas ce qu'on leur transporte du vieux continent gréco-judéo-chrétien et qui ont leur manière de penser plus mercantile, plus schématique. Ceux-là ont réduit la French theory en wokisme, comme on dit maintenant.
Et vous, vous défendez au contraire ce wokisme décrié?
Je suis contre le wokisme et je suis pour la décomposition de ce type d'idéologisation réductive de ce qu'on a apporté. Mais ce qui ne veut pas dire que tout a été réduit à cette espèce de déchet de la culture moderne et qu'il faut jeter le bébé avec l'eau sale.
Et ça vous ennuie que votre nom soit mêlé?
Ça m'ennuie pas, j'essaye à chaque fois de clarifier les choses, mais je pense que la lecture continue et on se laisse pas, tout le monde se laisse pas intimider par le fait que la French Theory était attaquée et que c'est quelque chose qui engendre le wokisme. Donnant aussi les exemples qui sont fructueux et qui résistent à cet aplatissement.
Bon, on est au cœur du sujet. Est-ce que l'Amérique a fait de ces auteurs français des années 1960-70 l'existence possible de malentendus, en même temps une adoration qui n'a pas que des mauvais côtés. Vincent Kaufmann, vous la connaissez cette Amérique, vous y avez enseigné. Je vous laisse réagir à tout ce qui vient d'être dit.
Oui, alors je voudrais peut-être commencer par revenir sur un point par rapport à ce qu'a dit François Cusset. Je suis tout à fait d'accord sur les enjeux politiques de la théorie en général, je crois, et je voudrais repartir aussi d'une remarque que Julia Kristeva vient de faire sur son statut d'étrangère dans la culture française, qui est peut-être une des raisons de son succès aussi aux États-Unis. Je crois que de manière générale, les théories ont été l'affaire d'étrangers, de marginaux, d'exilés, on pourrait presque dire de métèques, et que il y a eu continuellement dans ce moment théorique français une tension politique entre ce qu'on pourrait appeler les héritiers d'une part, ceux qui défendaient la tradition, et ceux qui étaient plutôt du côté de la théorie, et c'est-à-dire du même coup du côté d'une espèce de geste de fondation ou de refondation d'une réflexion sur la culture, la littérature, qui passait précisément par une critique, une remise en cause, voire une tentative de destruction de toute la tradition. C'est pas pour rien que un des creusets de la théorie en France a été le groupe Tel Quel, qui a été un groupe d'avant-garde, qui s'est systématiquement opposé à la culture dominante, à la culture bourgeoise, etc. Donc, je crois que c'est un point de départ très important pour comprendre quels en étaient les enjeux, et c'est autour de ce motif de la critique de la tradition, d'une volonté plus ou moins radicale d'en finir avec la tradition, que la plupart des discours théoriques en France dans les années 60-70 se sont articulés. Et je crois aussi que c'est cette position-là qui fait que aujourd'hui encore, en France, il y a une sorte de résistance à ce qu'a été la théorie. Il y a toutes ces caricatures, ces règlements de compte où on impute à la théorie à peu près tous les maux du siècle. Mais ce que je veux dire en rappelant tout ça, c'est que ces enjeux-là, ces combats-là, on peut les considérer... À mon sens, ce ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui nous reviennent aujourd'hui des États-Unis. Et c'est pour ça que je serais un petit peu plus réservé que François Cusset sur l'idée que les mouvements woke, la défense des minorités, etc., c'est aujourd'hui ce qui nous revient de la théorie. Ça nous revient, mais complètement transformé. Je suis donc... de ce point de vue-là, tout à fait d'accord avec Julia Kristeva quand elle voit plutôt une opposition, une tension entre ce qu'a été une culture théorique liée au livre et ce qui en revient aujourd'hui via les États-Unis.
Vous voulez dire qu'avec des auteurs comme Foucault, Lacan, Barthes et peut-être Kristeva, on aurait des outils pour critiquer précisément beaucoup de choses des mouvements woke d'aujourd'hui?
Oui, alors ça va tout à fait dans ce sens-là. Finalement, Foucault, Derrida, Kristeva, Lacan, ce sont mes références, et c'est avec ces penseurs-là que, sans doute comme Julia Kristeva, je critiquerai précisément une bonne partie de ce qui se fait à l'enseigne des mouvements woke, en particulier le repli identitaire que supposent ces mouvements. C'est quand même énorme de mettre ça sur le compte de Derrida, qui a été une pensée de la différence du début à la fin.
Oui.
Et on trouverait aussi, évidemment, chez Foucault, quantité d'instruments critiques pour retourner les choses sur ce plan-là.
François Cusset, puis ensuite Julia Kristeva.
Oui, moi je voudrais faire une demi-blague en disant que quand j'entends le mot woke, j'ai envie de sortir mon revolver, simplement parce que... c'est d'abord un mot d'ennemi idéologique de l'ensemble de ces mouvements minoritaires. C'est un mot qui rassemble, là aussi, des choses qui ne devraient pas être rassemblées. C'est un spectre extrêmement varié,
oui,
qui va de mode intellectuel un peu théorisante, d'enfants de la bourgeoisie dans les campus américains, jusqu'à l'ensemble des mouvements d'émancipation et des luttes minoritaires du Sud global aujourd'hui. Donc on ne peut pas tout mettre sous cette catégorie-là en faisant le grand ennemi et la caricature que ça peut être aussi. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais revenir sur ce que disait Julia Kristeva, c'est-à-dire que le grand événement, finalement, de notre époque, le plus grand événement de notre époque, c'est le décentrement de ce monde que vous appeliez gréco-judéo-chrétien, en tout cas européen, pas sa destruction, évidemment, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, tout à fait, mais son décentrement mondial et l'émergence de quelque chose qu'on ne sait pas comment appeler, alors on l'appelle le Sud global, qu'Edouard Glissant très justement appelait le tout monde, et qui a des effets théorique et intellectuel. Et moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que là, de quoi on parle? Là, on parle toujours du même truc transatlantique, Harvard, Sorbonne, l'Amérique, la France, etc. Tout ça est finalement un peu derrière. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que, avec un héritage théorique fort, les intellectuels du Sud global, les gens qui luttent aujourd'hui, vont faire avec nos vieux concepts pour essayer de les renouveler et de leur donner une actualité. Lesquels? Le progrès, le développement, la révolution, le sujet, la politique. Ces choses-là sont rethéorisées dans des contextes que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas les contextes occidentaux, qui sont des contextes à la fois minoritaires, post-coloniaux, hein, puisque le Sud global, c'était quand même des colonies autrefois. Et l'avenir, pour moi, intellectuel de l'émancipation, il est plutôt là-bas. Donc, l'histoire franco-américaine, finalement, c'est des petites différences. Hein. Freud aurait dit narcissisme.
Vraiment,
des petites différences.
Petite, là.
Oui, parce que... Bah,
parce qu'en même temps, c'est notre sujet du jour. Vous dites que c'est peut-être pas important, mais c'est de ça qu'on parle. C'est de qu'est-ce qu'on a fait de ces auteurs. Et nous avons la chance d'avoir Julia Kristeva ici en studio. Le sujet, c'est vraiment... Est-ce que c'est insupportable, ce devenir actuel des théories des années 1960-70, ou est-ce que c'est intéressant? Voilà.
Bon, moi, il y a beaucoup de choses à dire et je suis ravie d'assister à la prolongation de notre réflexion. D'abord, je suis absolument en désaccord quand on dit que la revue telle quelle a éradiqué la tradition bourgeoise et la culture bourgeoise.
Bah, elle a lutté contre, hein, quand même.
Pas du tout. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Les textes de France. Où ça?
C'était sa grandeur aussi, le combat contre la vision bourgeoise de l'écriture.
Il y a des pages et des pages, de 1000 pages à chaque fois de la guerre du goût et des écrits de Solers, etc., qui sont consacrés à Maître Eckhart, à Nietzsche,
c'est un autre point, ça. Oui.
À Cézanne, à Shakespeare, à Saint-Simon, à Madame Sévigné.
Bien sûr.
La souveraineté de la langue française. Et on commence à s'apercevoir aujourd'hui des gens de gauche qui ne voient pas ça sont dépassés parce qu'on passe par être des souverainistes et qui font hommage, rendent hommage à Solers d'avoir insisté sur la souveraineté culturelle de la langue française et de sa tradition, parce qu'il y a eu une lecture gauchisante de la théorie qui l'a réduite à une prise de position partisane et n'a pas vu la réévaluation de la tradition par cette mouvance qu'on appelait l'avant-garde et qui est passée de telle quelle à l'infini.
C'est la passion de la littérature.
Les belles lettres. Moi, je me souviens, en arrivant en France, il y avait encore des dames qui s'appellent dames de lettres. Ça n'existe plus. On était contre les dames de lettres, mais on n'était pas contre la littérature.
Entendu. Voilà. Là, on a mieux compris. Entendu. Merci pour cette
clair.
Mise au point.
Oui. Bon, donc, il faut sortir de l'idée que l'avant-garde était une destruction des valeurs du passé. Quelqu'un comme moi venait en France pour parler du nouveau roman et je me suis intéressée au Petit Jean de Saint-Tré qui est le premier roman français avant Rabelais.
Oui.
Donc j'étais dans le cœur même de la tradition française et je réclamais la souveraineté du français qui passe du carnaval de Jean de Saint-Tré à Robe Grillée. Mmh. Donc il faut pas oublier ça, il faut pas renvoyer à telle ou telle tendance d'extrême droite aujourd'hui, tout le travail de la French Theory ou tout ce que vous voulez comme pensée de critique a une sorte de déconstruction négative et à renvoyer aux poubelles. Alors là où les choses deviennent plus compliquées, c'est que cette tradition-là a eu des épigones. Les gens qui sont dans la recherche mettent de la passion. L'université construit des tonnes de discours techniques qui couvrent souvent la lecture et ne peut pas conduire la jeune génération à lire à travers la théorie et s'arrête à lire. La théorie peut devenir une espèce de nuage qui cache la passionnalité du texte. Et cette façon de le faire a donné une conséquence négative, mais qui n'est pas peut-être radicale et n'est pas la cause principale de ce qui se passe aujourd'hui sous l'effet de l'image. On entre dans depuis longtemps déjà, mais avec l'hyperconnexion, on est dans une société de l'image, on est dans une société de l'hyperconnexion, on est dans une société du marché du livre. Le livre est une industrie du livre et les avant-gardes, les choses exceptionnelles sont moins mises en valeur. Il faut regarder les télévisions, on parle du livre qui raconte un crime, une violence, quelque chose qui est un buzz et non pas une recherche de pensée ou de changement du monde. Les questions sont plus sociales que liées à telle ou telle théorie. Mais ce qu'on a fait, nous, je pense que... C'est pour ça que je me suis permis de donner l'exemple de la lecture que je propose de Dostoïevski, mais on peut le faire avec d'autres. Essayer de ne pas se débarrasser de ce travail de refonte et de modernisation de l'interprétation, car il s'agit d'interprétation, d'apprendre l'interprétation à l'école et à l'université, de l'alléger grâce à des émissions comme la vôtre et en préparant une classe de médiateurs qui sont entre la librairie et la consommation et qui ne sombrent pas simplement dans le spectacle et la fascination et que la capacité de lire devienne cette espèce de ferment qui protège une culture sans quoi nous ouvrons la voie au grand remplacement.
Pourquoi vous employez cette expression. Vous savez à quel point elle est marquée. C'est-à-dire qu'en fait, vous adhérez à cette théorie du grand remplacement. Vous faites référence au remplacement des Européens et des Blancs, comme le disent certains, par des populations. Je découvre, ça fait deux fois que vous l'employez cette semaine.
Je l'emploie parce que
vous êtes totalement sur cette théorie. Peut-être qu'il y a un malentendu là.
Non, je pense que cette théorie veut dire que l'Occident est pourri et il va s'écraser et il va venir une autre. Je dis pas que c'est d'avoir peur d'être remplacé. Je dis que il faut avoir la vitalité de garder les valeurs de cette civilisation gréco-judéo-chrétienne qui n'est pas simplement un colonialisme qui a honte de soi, mais qui a des capacité d'approfondissement de soi, de questionnement de soi, de reconstruction de l'identité, et que nous avons des valeurs qui ne sont pas simplement entre l'Europe et l'Amérique, mais qui peuvent concerner tous ces pays qui sont à l'extérieur. Moi, j'ai de plus en plus de contacts avec des Chinois ou des Iraniens et des Marocains ou des Syriens qui viennent demander de faire des colloques sur le travail qu'on a accompli autour de Rabelais ou de Balzac, mais avec la French Theory. Ces gens-là ont des capacités de comprendre des valeurs comme ce que on parlait l'autre jour, l'identité. Et ce n'est pas une valeur de leur culture, c'est une valeur de notre culture. Le moi, la liberté, la transgression, ça vient de nous, ils veulent apprendre par la littérature.
Entendu. Alors, je préfère prévenir mes deux interlocuteurs qui maintenant vont probablement finir cette émission. Il ne vous reste pas plus que deux minutes chacun. Donc, Vincent Kaufmann, peut-être ce clin d'œil de Julia Kristeva au fait que nous vivons dans une société du spectacle, vous ira droit au cœur, vous qui êtes un spécialiste de Debord.
Oui, alors il y a dans ce que Julia Kristeva vient de dire beaucoup de choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Peut-être juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les avant-gardes où on a l'air de ne pas être d'accord. Je suis tout à fait conscient que tel quel, comme beaucoup d'autres groupes d'avant-garde, ont découvert beaucoup de textes, ont travaillé sur la tradition. Mais ce qui me semble important dans le geste des avant-gardes, comme dans le geste d'ailleurs de Kristeva après vrai, les avant-gardes, c'est qu'à un moment donné, dans ses lectures, dans ses interprétations, dans ses théorisations, elle s'autorise finalement toujours d'elle-même et pas d'une tradition. Julia Kristeva a fait plein de choses maintenant, mais elle n'a jamais vraiment fait de la critique des sources. Elle n'est pas redevenue philologue. Et je crois que la grande tension qui a existé entre les théoriciens ou le théorique et les défenseurs de la tradition, elle porte là-dessus, elle porte sur cette capacité que les avant-gardes, les théoriciens ont eu d'être des fondateurs, des refondateurs, de repartir de zéro, de faire table rase et de ne s'autoriser que d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, la lecture, le travail sur les textes, l'écriture devient une véritable expérience et pas simplement une continuation, une répétition de la tradition. Ça me semble être un point très très important. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, ça concerne ce que François Cusset a dit, c'est bien de considérer qu'il y a dans les universités, dans le monde entier, plein d'expériences qui se font au nom de la French Theory, même si elles n'ont plus grand-chose à voir avec. Moi, ce qui me frappe quand même, comme simple professeur de littérature, c'est que entre ce que nous avons essayé au cours des années 60, 70, 80 de théoriser en termes de complexité des textes, en termes de complexité de la lecture, et ce qui se fait ce qui s'est fait plus tard dans énormément de départements de littérature, il n'y a pas le moindre point commun. On est revenu avec des discours sur les minorités, etc., à des façons de lire qui jouent sur l'identification, sur l'empathie, sur le sens premier des textes, et ça n'a plus rien à voir avec cette espèce de mise en cause extrêmement profonde d'un certain type de lecture, justement, par identification, par empathie, sans doute beaucoup trop simple,
entendu, Vincent
dont on ne voulait plus.
Je crois qu'on a vraiment bien compris votre point de vue. Et maintenant, François Cusset, qui attend la parole depuis un moment.
Non, mais c'est juste qu'on entend des choses terribles. On entend des choses terribles. L'Occident pourri, le grand remplacement, les valeurs judéo-chrétiennes. De quoi on parle ? On parle de théorie, hein, époque théorique. La théorie, comme la littérature, n'appartient à personne, à aucune culture qui en aurait la propriété historique. Et d'ailleurs, son histoire est une histoire de circulation, d'usage, de réinvention. Et oui, son avenir, y compris son usage politique, puisque finalement c'est ça qui est intéressant, en quoi elle peut changer nos vies, sinon il ne s'agit que de salle de classe. Une salle de classe doit mener à changer la vie. N'est plus en Occident. L'Occident y participe de manière essentielle, évidemment, mais n'est plus là. Il est ailleurs. C'est-à-dire, revenons au départ. De quoi on parle? Les années 70, c'est-à-dire que la théorie, c'était une façon d'éviter les deux écueils de l'époque. L'humanisme très classique, hein, l'explication de textes scolaires, et en face, les marxistes orthodoxes dominants, assez importants à l'époque, dans les années 60-70. La théorie, ça a été une façon d'échapper aux deux, de dire le texte est autonome, on va faire la révolution dans le texte, avec le texte. Aujourd'hui, il faut faire pareil, à l'âge des réseaux sociaux, effectivement, et de la vidéosphère, et ça se fera, à mon avis, loin d'Occident, et ça se fera contre les ennemis d'aujourd'hui, qui ne sont plus, effectivement, l'humanisme classique ou le marxisme, qui sont, en gros, un capitalisme devenu fou, techno et fou, et une extrême droite aux portes du pouvoir à peu près partout. Donc, à ce titre-là, s'il y a un avenir à la théorie, ça n'est pas en parlant, je crois, d'Occident, de pourriture, et de grand remplacement, c'est une certitude.
Si vous pensez que vous pouvez dire quelque chose en 45 secondes, Julia Kristeva, je sais que c'est difficile, je vous laisse volontiers conclure.
À propos des sources, je ne peux pas redire aux sources, mais j'ai eu le prix Saint-Simon et je pense que on peut comprendre que la façon de lire peut appartenir à une tradition et ne pas couper le fil entre tradition et actualité.
Merci beaucoup. Et merci à tous les trois. En vérité, je trouve que cette discussion est allée au fond des choses sans se masquer les problèmes et les difficultés. François Cusset, Vincent Kaufmann et bien sûr Julia Kristeva. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion sur l'époque théorique de vos premiers travaux, Julia Kristeva. Je signale votre post-face très poignante. poignante, je dois dire, à l'ouvrage de Philippe Solers, La Deuxième Vie, qui vient de sortir, donc un an après sa mort, chez Gallimard. Il vient de sortir en mars, et à la fois ce texte et votre postface sont des petits bijoux d'écriture très, très, qui bousculent ceux qui les lisent pour regarder le thème de notre série sur vous, Kristeva, qui bouscule la littérature.